en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans En Séance, votre rendez-vous quotidien avec le travail de l'Académie des sciences morales et politiques, en l'occurrence la séance publique que vous propose l'Académie tous les lundis à 15h au Palais de l'Institut de France. Un membre de l'Académie des sciences morales et politiques ou un membre de l'Institut, voire une personnalité extérieure, vient présenter une communication sur un thème défini par le président de l'Académie en 2005, l'historien Jean Tullard, thème autour de l'histoire, évidemment, faut-il faire confiance aux historiens? Chaque lundi, donc, à 15h, une communication. Et le lundi 6 juin 2005, c'est Jean Cheyras, qui était invité par l'Académie, le réalisateur Jean Cheyras, venu présenter cette communication intitulée « Le film documentaire historique, vérités et mensonges ». Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Mesdames et messieurs les académiciens, mesdames, messieurs et chers amis, je ne sais pas si c'est Lumière qui va parler, mais on va faire en sorte que la lumière chemine. Le titre de cette communication est le film documentaire historique « Vérités et mensonges ». Je placerai cette conférence sous le patronage d'un homme qui a disparu récemment, qui est probablement un des plus grands philosophes français. Il s'agit de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, à qui l'Académie des sciences morales et politiques avait rendu hommage en couronnant son œuvre il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, et qui vient de nous quitter en mai. Première citation de Paul Ricoeur, il y en aura 3, ça c'est la première. « Je reste troublé par l'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs, pour ne rien dire de l'influence des commémorations et des abus de mémoire et d'oubli. » L'idée d'une politique de la juste mémoire est à cet égard un de mes thèmes civiques avoués. Je vais développer ces quelques phrases, ces quelques mots. Le film documentaire historique, comment le définir? Si je me réfère à Jean Vigo, un film documentaire est un point de vue documenté. Cette définition peut-elle concerner le film documentaire historique? Oui, dans la mesure où un documentaire historique est le propos d'un auteur, réalisateur, journaliste, historien, écrivain, exprimé avec des documents tournés souvent par d'autres et dans tous les cas assemblés et montés par lui. Car le sens de l'œuvre est obtenu par le montage, d'où l'expression connexe « film de montage ». Dans cette alchimie, quelles sont les parts de la vérité et du mensonge? Autrement dit, peut-on faire confiance à un film documentaire historique? Je commencerai cet exposé par un rappel des origines de documents historiques filmés. Merci Lumière. Le débarquement des membres du Congrès de la photographie à Neuville-sur-Saône, tourné en juin 1895, et aussi, merci Méliès, le deuxième procès Dreyfus à Rennes en 1899, reconstitué dans son studio de Montreuil, puis je survolerai le siècle jusqu'au film à base d'archives d'aujourd'hui. Ensuite, j'essaierai d'analyser le phénomène de la récupération du documentaire historique par la télévision, avec la perversion culturelle inhérente à cette récupération. Il y eut certes des résistances à cette perversion due à des initiatives marginales, en particulier celles que j'ai vécues lorsque j'ai créé la collection Présence du passé en 1965. Je m'étendrai un peu tout à l'heure sur cette expérience dont on dit qu'elle a pu innover en la matière et qui a été traitée depuis par quelques sociologues des médias avec une certaine légèreté, voire une étrange incompréhension. Enfin, je tenterai de tracer les grandes lignes de ce que devrait être, selon moi, le documentaire historique, en posant cette même question que Jean Tullard posait le 16 février ici même, au cours d'une brillante prestation, peut-on tourner des films historiques? Et j'ajouterai, fussent-ils documentaires? Cet exposé sera illustré par 9 extraits, brefs, dont la plupart sont inédits et proviennent de l'Institut national de l'audiovisuel, que je remercie. Le film documentaire historique, né avec l'utilisation du cinéma comme vecteur de propagande révolutionnaire, avec ce qu'on a appelé le « ciné-œil » de Dziga Vertov et des grands cinéastes soviétiques, Kuleshov, Protozanov, Pudovkin, Eisenstein, Kosintsev et Trauberg, etc., réalisateurs sommés de promouvoir l'image du communisme. Puis les régimes fascistes, qui ont bien tenu la leçon, produiront à leur tour des films documentaires de propagande. Ils seront signés Steinhoff, Leni Riefenstahl ou Wetterlan, à Berlin et à Nuremberg. Films de propagande aussi à Rome, avec Blazzetti, Vittorio Mussolini et Carmine Gallone. Puis à Paris, sous l'occupation, avec, en 4 ans, plus de 200 documentaires au service de Vichy et de l'occupant. Parallèlement, le documentaire trouvera une respiration ordinaire, Dieu merci, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma du réel, avec Flaherty, Joris Evans et surtout ces formidables réalisateurs anglais des années 30, de John Grierson à Henry Watt. Mais ce sont deux Américains d'origine française, Louis et Richard de Rochemont, qui proposeront en 1935 une facture moderne pour le film documentaire historique avec le montage d'archives. En marge du magazine Time, ils créent une cinémathèque d'actualité intitulée March of Time. Cette collection d'archives filmées donnera naissance au cours de la Deuxième Guerre mondiale à l'excellente série des Pourquoi nous combattons, supervisée par le réalisateur Frank Capra. Le film documentaire historique est donc un montage de stock shot, c'est-à-dire d'images filmées conservées dans les bassins d'archives, accompagnées d'un bruitage, de musique et souvent d'un commentaire off. Par la suite, on pourra compléter ce montage par des témoignages, des documents iconographiques, des cartes animées ou de brèves séquences de reconstitution, là où l'image d'actualité fait défaut. Ce sera le cas pour les films d'instruction, fabriqués à l'intention des commandos parachutés en zone occupée, qu'Alfred Hitchcock tournera en 1943 à la demande du SOE britannique. Film dont le principe fera école dans les années 50. Mais un documentaire réalisé avec ces éléments de reconstitution est-il crédible? Car il ne s'agit plus ici, cher Jean Tullard, de s'esbaudir en remarquant le joli bracelet-montre que porte Gianna Maria Canale dans le film de Riccardo Freda, Théodora, impératrice de Byzance, ou bien de se demander, comme mon excellent maître Georges Sadoul, si les écrémeuses de Jovjenko tournaient bien dans le sens de l'histoire. Il s'agit de s'interroger sur la véracité des images filmées, ce cadeau des frères Lumière à la muse Clio. Il faut donc en premier lieu examiner de manière critique les archives filmées qui forment la chair du document. Elles véhiculent le plus souvent une vision officielle ou stéréotypée. Marc Ferraud l'a bien mis en valeur avec Histoire parallèle, cette série initiée par Louise Etnel et diffusée par Arte. En effet, qu'est-ce qu'une prise de vue d'actualité? C'est généralement la résultante des instructions données par un rédacteur en chef à un reporter caméraman. Celui-ci exécutera plus ou moins bien le travail confié face à l'événement et parfois les conditions du filmage sont très difficiles en cas de conflit, par exemple. Dans le meilleur des cas, le matériau filmé aura un caractère journalistique, c'est-à-dire empreint de la subjectivité de l'opérateur, et marqué aussi par les circonstances. Celui qui recueille les images peut les présenter à sa guise, tant par le choix de l'objectif et du cadrage que par la position de sa caméra, en plongée, en contre-plongée, avec amorce ou sans. Quant aux images militaires et scènes de guerre, elles sont en général obtenues lors des manœuvres ou des exercices, ou bien parfois elles sont le résultat d'une mise en scène voulue et contrôlée par le pouvoir politique. Par exemple, les directives de Joseph Goebbels aux opérateurs de la Wehrmacht. Et puis il y a le montage, la musique, le commentaire. C'est-à-dire qu'avec les mêmes images, on peut leur donner un sens tout à fait différent. Prenons le film sur la tragédie de Mersel Kébir, début juillet 40. Il a été présenté au public de la zone sud avec un commentaire d'inspiration vichyste, c'est-à-dire larmoyant. Pour la zone occupée, sur les mêmes images, le commentaire est férocement anti-anglais et férocement anti-gaulliste. Cet exercice de style figure dans un film qui est intitulé « Les documentaires des années noires », un montage d'extraits sélectionné par Jean-Pierre Bertin-Maguit. Ce film montre aussi une séquence d'un documentaire conçu pour inciter les ouvriers français à venir travailler volontairement pour le Reich juste avant l'instauration du STO. Vous allez voir comment on pouvait présenter au public, sous un jour avenant, le séjour en Allemagne. Le documentaire historique est effectivement doué pour le mensonge. Ce qui était monnaie courante au temps de la pellicule cinématographique l'est encore plus aujourd'hui, à l'ère de la vidéo, du numérique, des images de synthèse, des effets spéciaux et trucages en tout genre. Pourtant, même lorsqu'il ment, le film documentaire conserve toujours une valeur historique puisqu'il donne à imaginer ce que l'on veut cacher ou travestir. C'est en quelque sorte le paradigme du bourrage de crâne. Je prends un exemple que j'ai découvert moi-même à Koblenz, chez Bundesarchiv. Sans doute vous souvenez-vous des documents qui nous montrent la visite d'Adolf Hitler à Paris le 24 juin 1940. Dans le plan cadrant la voiture du Führer, place du Trocadéro, on aperçoit à droite de l'image un balayeur municipal qui s'active au bord du trottoir. Il est 5 heures du matin. Le commentaire off exalte le bon état d'esprit des Parisiens qui veulent que le chancelier du Reich puisse visiter une ville propre. Dans le document complet, le Rush, ce fameux balayeur n'est autre qu'un soldat allemand. Dans une chute du plan, non retenue au montage, il pose son balai et va récupérer sa veste et sa casquette d'uniforme de la Wehrmacht sur son vélo appuyé à un arbre. Voilà un mensonge qui nous renseigne sur ce que l'Allemagne voulait faire croire, la soumission complète du peuple français. La manipulation des archives est une réalité bien connue, qui a obéré le documentaire. On s'est même surpassé dans ce petit jeu de la manipulation jusqu'à fabriquer de fausses archives. Je n'en citerai qu'une, célèbre. Le gros plan de la poignée de main entre Hitler et Pétain à Montoire, inséré dans le montage du journal d'actualité, projeté dans les salles de cinéma lors de la première semaine de décembre 1940. Lorsqu'on s'arrête sur l'image à la table de montage, on s'aperçoit facilement que les tissus des deux manteaux filmés en plan rapproché ne sont pas les mêmes que ceux du plan d'ensemble. Pourquoi ce trucage ? On pourrait se demander si la poignée de main de Montoire a bel et bien existé. Autre super manipulation, celle-là toute récente, les fausses interviews tournées par Pierre Beuchaud pour son film « Hôtel du Parc », pourtant produit par Arte. Nous avons vu tout récemment une évocation du 8 mai 45, avec 4 portraits de femmes dans la guerre, de Patrick Jeudy. La fausse archive, l'utilisation abusive des images de remplissage pour donner du temps au narrateur, sans parler de la colorisation kitsch, font de cet exercice de haute voltige, pourtant non dénué de talent, la limite, voire l'extrême limite de ce qui est acceptable pour un documentaire se voulant historique. Parlons plutôt de fantaisie historique. Vérité du documentaire ? Mensonge de la fiction ? Il peut arriver que la fiction soit plus près de la vérité historique que le documentaire pourtant censé en être le détenteur. Jetons au passage un bref coup d'œil sur « Germania Anno Zero » de Roberto Rossellini. Il s'agit pourtant d'un film de fiction tourné en 1947 dans les ruines de Berlin. La caméra de Rossellini nous les fait découvrir en suivant le petit Berlinois Edmund Meschke qui, à l'issue de la déambulation dans sa ville détruite, va se suicider. Est-ce une fiction ? Est-ce un documentaire ? À vous de juger. Le néoréalisme italien, dont le père est Roberto Rossellini, exercera d'ailleurs une influence sur le film documentaire historique, qu'il soit ou non à base d'archives. Il lui insufflera le goût de la vérité, l'incitera à rechercher l'émotion, ce qui n'est pas en contradiction avec la rigueur de l'exposé. Je pense en particulier au beau film de Jean-Paul Lechanoit, Au cœur de l'orage, sur l'affaire du Vercors, ou à La bataille du rail, de René Clément, film qui suscite une vive émotion sans trahir la vérité historique. Il me faut citer aussi Razvani, quelque part en Europe, et Wanda Jakubowska, La dernière étape, qui reconstitue à Auschwitz même, en 1947, dans le camp abandonné, des épisodes dramatiques du monde concentrationnaire, épisodes vécus 2 ans plus tôt par la réalisatrice du film. En France, dans les années 50, après une flambée de sujets exaltant la résistance, on se penche à nouveau sur le charme désuet du passé avec l'excellent Paris 1900 de Nicole Vedrès. Puis nous assistons à une floraison de courts-métrages du groupe des 30, d'où émergeront un peu plus tard Alain René et Chris Marker, avec 2 chefs-d'œuvre, Nuit et brouillard pour le premier, Les statues meurent aussi pour le second. Mais il ne faut pas oublier un moyen-métrage que Robert Mandrou considérait comme la meilleure évocation du Moyen-Âge, Le pèlerin perdu de Guy Jauret. Cette production de documentaires historiques, dont je viens de citer quelques exemples, était destinée aux salles de cinéma et aux ciné-clubs. Et même si elle avait parfois des démêlés avec la censure, elle jouissait d'une grande liberté d'initiative. Les choses vont changer au début des années 60, avec l'apparition de la télévision, qui a d'abord joué un simple rôle de diffuseur de ces films, puis qui en devint producteur, c'est-à-dire commanditaire. Le film documentaire historique va donc se placer peu à peu sous le joug des décideurs d'État. Ainsi va-t-il s'inscrire plus ou moins dans le climat politique de son époque et participer aux enjeux de pouvoir. Seuls, quelques films produits en dehors de la télévision s'efforceront d'exister par le truchement des salles, d'art et d'essai, mais ne toucheront qu'un public restreint. C'est le cas pour Frédéric Rossif avec Le Temps du ghetto et Mourir à Madrid, puis une dizaine d'années après avec Le chagrin et la pitié de Marcello Fulz et mes films Dreyfus, L'intolérable vérité et La prise du pouvoir par Philippe Pétain. En 1964, la RTF était devenue l'ORTF. La direction de la télévision avait été confiée à Claude Contamine, fils et frère d'historien. Une de ses premières décisions fut de susciter la création d'une collection historique documentaire d'un genre nouveau. La responsabilité m'en fut confiée, car, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean Tullard, j'étais, par ma formation, au confluent de l'histoire et du cinéma. Je passe sur le mauvais procès que l'on me fit à l'époque, en m'accusant d'avoir été le fossoyeur de la caméra Explore le temps. Cette série, réalisée sur les principes du théâtre filmé, était très populaire et la décision de la supprimer fut mal vécue. Je n'y étais absolument pour rien. Il y avait un désir de changement de style, une autre ambition. Ce fut alors l'aventure de Présence du passé que l'on pourrait sous-titrer à la recherche du vrai film historique. Sous l'autorité de Robert Mandrou, qui avait été mon directeur de thèse, et avec mes amis Jean Mauduit, normalien de formation, secrétaire général du groupe Lazareff, Claude Choublier, responsable des pages culturelles de l'Observateur, puis Bernard Revon, scénariste, nous avons défini les règles qui allaient caractériser chaque numéro de la collection. Faire revivre l'histoire au présent, ramener le passé dans le présent pour mieux le faire comprendre à nos contemporains. Utiliser l'iconographie comme on utilise l'archive cinématographique, ce qui est devenu courant aujourd'hui. Dans le cas d'un sujet appartenant au XXe siècle, ne jamais le sortir le document de son contexte et en préciser la source. Utiliser les chansons d'époque pour en restituer l'atmosphère. Citer en extrait des films de fiction, même s'ils paraissent antinomiques. Recourir à des comédiens dans les séquences de mise en situation. Couper le récit pour faire appel à une observation ou à un commentaire d'historien ou d'écrivain, ce qui est devenu fréquent depuis. En cas de témoignage, les enregistrer en situation. Écrire un commentaire distancié. Provoquer des télescopages entre le présent et le passé. Ne jamais refouler l'émotion inhérente à l'évocation du passé. Bref, il faut bien reconnaître que c'était assez audacieux pour l'époque. Tout de suite après l'académisme de la caméra Explore le temps, on voulait faire passer un souffle de liberté et d'insolence. On voulait dépoussiérer, on voulait oxygéner l'histoire. Nous l'avions en quelque sorte décorseté. Cette charte en 12 points de présence du passé fut respectée par des réalisateurs de cinéma auxquels nous avons fait appel. Pour mémoire, il y eut Georges Dumoulin pour Les 100 jours, Claude de Givray pour Le système de l'As et pour La Fronde, Jean Herman, qui est aujourd'hui Vautrin, pour Guillaume le Conquérant, Abel Gance et moi-même pour Valmy et La naissance de la République, Pierre Caste pour La naissance de l'Empire romain et Le Vendredi noir. Et lorsque la collection fut supprimée en 1968, nous avions en préparation une histoire de l'esclavage par Ruy Guerra, Haussmann et les transformations de Paris par Jacques Daniel Valcroze, Les Camisards par René Alliot, qui en fera plus tard un film pour le grand écran. Quant à la prise du pouvoir par Louis XIV, que nous avions initiée avec Philippe Erlanger, ce film n'appartint finalement pas à cette collection, car un différend sur le fond nous avait opposé à Roberto Rossellini. Mais nous lui rendîmes hommage en lui dédiant la naissance de l'Empire romain. Présence du passé était probablement une émission expérimentale. Elle se voulait en même temps grand public, car elle était diffusée en prime time. Elle sollicitait la complicité du téléspectateur pour l'effort de recherche, d'analyse critique et de synthèse qu'elle s'efforçait de promouvoir. Pour changer avec l'histoire musée des érudits, avec l'histoire fiction des romanciers, c'est une histoire vécue que nous voulions proposer, une histoire ressentie avec autant de présence que celle des événements contemporains et traitée comme eux. Avec le souci de ne s'enfermer dans aucun genre, mais de les utiliser tous, valorisant cette souplesse d'écriture que permettait alors la télévision. La mise en chantier de ces intentions et de ces idées ne fut pas simple, car on nous avait classés dans la catégorie des documentaires. Il fallait donc systématiquement contourner les règlements pour faire accepter à l'administration les frais inhérents au mélange des genres. Pour vous donner des exemples de ce qui a fait l'originalité de cette série, je vous propose de regarder quelques courts extraits de cette collection. Voici donc tout d'abord le début de Guillaume le Conquérant, un film de Jean Herman qui aujourd'hui signe ses romans sous le nom de Vautrin. Alors le film fut construit au moyen d'aller-retour avec la tapisserie de Bayeux, les reconstitutions s'efforçant d'être fidèles au carton de cette magnifique bande dessinée sous l'œil vigilant de deux historiens, Michel de Boire et Jacques Le Goff. À l'origine, le sujet devait comporter trois parties de 75 minutes, mais il fut réduit à 90 minutes et diffusé à la sauvette à la veille du Noël 68. Guillaume le Conquérant marquait la fin de la diffusion de la série il suscita ce commentaire de Jacques Siclier dans Le Monde, dont je vous cite un extrait. L'histoire n'y est pas proposée en spectacle. Les reconstitutions sont comme des impressions qui jaillissent de la mémoire du temps pour nous donner en quelques images l'idée des mœurs et de la guerre féodale. Les interprétations personnelles de certains événements évoqués prêtèrent jadis à discussion et polémique. Mais avec la fin de Présence du passé tombe, hélas, un des derniers bastions de la télévision d'auteur. Si Présence du passé n'existe plus pour les sociologues du CNRS, experts des médias, on est bien loin d'avoir apprécié l'influence de cette série expérimentale. À la manière d'un caillou jeté sur une eau calme et lisse, elle a provoqué des ondes concentriques de plus en plus larges. Ainsi, les retombées de Présence du passé sont à rechercher surtout du côté du documentaire historique au cinéma, la télévision se réfugiant souvent dans le conformisme des commémorations. Retombées en particulier sur le travail de Marcel Ophuls, pour ce qui est de la liberté de ton. Ophuls n'avait jamais supporté la tutelle de la télévision. Il fera cavalier seul, grâce à la réputation mondiale du Chagrin et la Pitié, qui lui ouvre les portes des financements privés. Ainsi, dans les années 70 et 80, il fait preuve d'originalité et d'irrespect, avec notamment Hôtel Terminus et November Days. Toute proportion gardée, ce sera également le cas pour William Carell et aussi pour Alain Ferrari. Ses films, Bosnia et la milice, un film noir, classent leur auteur parmi les documentaristes héritiers lointains de Présence du passé. Un peu dans l'esprit de Marcel Ophuls, pour ce qui est du culot, un réalisateur américain, Michael Moore, s'est illustré à plusieurs reprises dans le pamphlet historico-politique. Mais il me semble difficile de l'identifier comme documentariste historique, même si Fahrenheit 9/11 relève de l'histoire immédiate. En tout cas, grâce à lui, un film documentaire à base d'archives s'est vu attribuer la Palme d'Or au Festival de Cannes. En réalité, le film documentaire historique a quasiment disparu en tant qu'essai critique. Les télévisions lui préfèrent des opérations commémoratives avec des produits médiatiques, archives, témoignages, accompagnés de commentaires parfois percutants, comme celui de Philippe Meyer pour le film de Frédéric Rossif, De Nuremberg à Nuremberg. Mais en général, les commentaires sont neutres, lénifiants ou insipides, en tout cas fidèles à la pensée dominante, c'est-à-dire à la pensée qui se nourrit exclusivement de l'histoire des vainqueurs. Déjà, en 1969, dans un rapport commandé par Edgar Faure, alors ministre de l'Éducation nationale, René Raymond et Raoul Girardet mettaient l'accent sur le grand décalage entre la vision historique globale donnée par la télévision et les préoccupations de l'historiographie contemporaine. Et ils concluaient « Le risque est grand de voir se créer un problème de l'intelligence du passé ». C'était il y a un peu plus de 30 ans. Maintenant, essayons de dresser en 2005 une typologie du film documentaire historique, tout genre confondu. On trouve l'essai historique ou le documentaire heuristique, le film enquête ou documentaire d'investigation, le film pédagogique ou documentaire d'enseignement, le film conférence ou documentaire narratif, le documentaire commémoratif, le film à base de témoignages, le pamphlet. Parmi ces 7 catégories, il faut remarquer que l'une d'entre elles est largement majoritaire, car elle correspond au choix prioritaire des chaînes de télévision, la commémoration. Ce fameux devoir de mémoire a créé deux types de réalisateurs. Le réalisateur archiviste, dont le meilleur exemple est Claude Lanzmann avec la mémoire de l'Holocauste et son film fleuve Shoah. Le réalisateur documentaliste, tel Patrick Rothman avec Un été 44, ou Daniel Costel, qui s'était fait connaître en réalisant la série des Grandes Batailles, initiée par Jean-Louis Guillot et Henri de Turenne. Ces réalisateurs documentalistes ont aujourd'hui la part belle, car les bassins d'archives sont enfin déverrouillés. Une nouvelle quantité d'images est à disposition. Cela permet de se passer des indications d'un véritable historien, d'annoncer des images inédites, du jamais vu, images qui seront en couleur ou colorisées pour plus de séduction ou de commercialité. Pierre Miquel, que j'ai eu le plaisir de côtoyer jadis en Cagne, Henri IV, et qui connaît bien la télévision, a déclaré quelque part « Quand vous faites de l'histoire, vous cherchez la vérité. Quand vous faites du spectacle, vous cherchez à plaire. Vous ne pouvez pas chercher à plaire en cherchant à être vrai. » Je crois que nous sommes là au cœur de la problématique du film historique. Nous savons bien que la télévision veut être accessible au plus grand nombre et qu'il lui faut séduire. Elle est donc portée vers la simplification, le simplisme, c'est-à-dire les confins du mensonge. C'est la démarche inverse de celle de l'historien, dont le métier consiste à montrer que les faits et les hommes sont mus par un faisceau d'éléments beaucoup plus complexes qu'on ne le suppose. Régis Debray le dit bien, la médiatisation fausse les vraies hiérarchies du savoir. Mais l'image, qu'elle soit dessinée, gravée ou photographique, n'est-elle pas une trace du passé ? Et quand l'image est une image filmée, n'est-elle pas une trace encore plus vivante du passé ? Le film montre la vie, il ne s'élève jamais au concept, mais il est riche de toutes les potentialités qu'il révèle. Pierre Nora a raison de dire « Notre perception du passé, c'est l'appropriation véhémente de ce que nous savons n'être plus à nous. Notre mémoire est devenue puissamment télévisuelle. Comment ne pas faire le lien, par exemple, entre le fameux retour de récit, qu'on a pu remarquer dans les plus récentes manières d'écrire l'histoire, et la toute-puissance de l'image dans la culture contemporaine ? » Pierre Nora m'a aidé à prendre conscience du malentendu qui nous empêche d'analyser avec sérénité le problème du film historique documentaire. Aujourd'hui, le mot « mémoire » fait référence à la faculté des hommes de se souvenir du passé. Les lieux, les événements, les objets, les symboles, bref, tout ce qui constitue notre patrimoine personnel et collectif. Ce qui différencie la mémoire collective de l'histoire, c'est le point de vue respectif de l'une et de l'autre. L'histoire se veut objective, scientifique, elle recherche la vérité. Même si elle se reconnaît fille de son temps, elle convient qu'il faut savoir prendre des distances par rapport à son temps. Il n'y a pas de véritable histoire sans bâton de longueur. Elle est érudite, s'appuie sur des documents, fournit des preuves. Elle se méfie de l'imagination, de la constitution, elle redoute l'anachronisme. Bref, elle suspecte tout ce qui nourrit justement la mémoire. La conscience historique fait place à la recherche mémorielle. On se focalise sur l'étude des traces actuelles des événements du passé, car nous sommes moins intéressés par les origines de l'événement que par les différentes strates de souvenirs qui l'ont mené jusqu'à nous. Au lieu de se projeter dans le temps, on part du présent pour voir à chaque époque ce qui a bien pu intéresser les hommes. C'est pourquoi le médiologue Régis Debray perçoit autour de lui une perte de conscience de l'historicité, perte qui est pour lui due à la disparition du sens politique. Je le cite, « Le devenir n'ayant plus de sens, la conscience historique se dissout de nos jours dans un même empirisme. Ainsi, la passion pour le patrimoine ne fait que cacher une amnésie qui se développe. » Alors, comment parler encore de films documentaires historiques ? Parlons plutôt de films documentaires mémoriels, à base d'archives et de témoignages. Il a le mérite de constituer une base d'informations et de références pour l'historien du temps présent, les Mémoires de la mine de Jacques Renard, les Captifs de l'an 40 de votre serviteur, ceux qui se souviennent du Bercknap, la Guerre sans nom de Bertrand Tavernier. Dans le documentaire à base de témoignages, ce sont ceux qui ont vécu les événements qui racontent. Ils ont pour eux la légitimité que procure l'authenticité. Ce n'est pas encore la vérité historique, car la mémoire est subjective et chargée d'émotions. On peut là encore se méfier du témoignage, mais pas toujours. Tout ne commence pas aux archives, écrit Paul Ricoeur, mais avec le témoignage, et que, quoi qu'il en soit du manque principal de fiabilité du témoignage, nous n'avons pas mieux, en dernière analyse, pour nous assurer que quelque chose s'est passé. En voici un exemple. C'est un extrait de « Femmes dans la guerre » de Guylaine Guidez, série réalisée en 1948 pour à l'époque ce qu'ils appelaient la 7 et qui est devenue Arte, et France 3. Ce témoignage d'Anis Postelvinet sur la sélection du 2 mars 1944 au camp de Ravensbrück est pour moi un très grand moment de vécu historique. Le remplacement progressif de l'histoire par la mémoire n'est pas sans risque. Alors que l'histoire permet l'appropriation affective du passé à travers ses grandes figures et la trace des événements fondateurs, la quête de la mémoire entraîne avec elle non seulement le chagrin et la pitié, mais aussi la rancune et la culpabilité. C'est le passé comme contrainte. L'obligation mémorielle, orchestrée par la télévision, risque de détourner les nouvelles générations de leur passé véridique, puisqu'on les installe dans un temps incertain où l'histoire scientifique n'a plus sa raison d'être. Faut-il en conclure que le cinéma, nouveaux matériaux et nouvel outil de l'histoire, est désormais condamné aux cérémonies rituelles ou à la fiction. Raoul Girardet dit que le meilleur film historique est une reconstitution romanesque, car il est une résurrection du passé, et l'essentiel, c'est que ça revive. Alors, pourquoi pas la Marquise des Anges ? Je vous laisse le soin de vous prononcer sur cette grave question. Vérité et mensonge, avais-je annoncé au début de cet exposé, nous avons constaté que ce n'était pas aussi simple, et que si nous abandonnions toute préoccupation téléologique, nous nous enliserions vite dans les sables mouvants du devoir de mémoire. Dans notre vieille Europe, pétrie d'idées reçues, le vent d'Ouest, depuis quelque temps, est venu balayer quelques certitudes recuites. À l'instar de Robert Paxton, qui avait soudain dessillé les yeux des historiographes de Vichy, une nouvelle vague de documentaristes « made in USA », notamment à l'Université de Californie et au Sundance Institute, est en train de secouer le film historique menacé d'ankylose. Ils ont réexaminé en premier lieu l'histoire récente de leur pays, la conquête de l'Ouest, le génocide des Indiens, la guerre de sécession, le Black Friday. Puis ils ont mis en question les campagnes d'Extrême-Orient. Avec l'appui de PBS et des fondations qui sont totalement indépendantes du pouvoir politique, ils réalisent de véritables essais historiques qui trouvent au moins dans les universités un public réceptif et enthousiaste. Ils ont compris qu'il fallait réussir l'amalgame entre journalisme d'investigation et imaginaire du réalisateur de fiction. La subjectivité des auteurs s'exprime par les juxtapositions, sinon par le mélange des genres, la création de nouvelles formes de récits et sans doute le recours à la méthode dialectique. Ces nouveaux réalisateurs sont en train de promouvoir un documentaire historique construit comme une enquête, mise en scène comme un spectacle. En fait, je vois dans leur travail quelque chose qui me rappelle le credo de présence du passé. Alors, il va bien falloir conclure et répondre à la question de Jean Tullard. Peut-on faire confiance aux films documentaires historiques ? Tout ce qui a été dit au cours de cet exposé vous a suggéré probablement une idée de ma réponse. On peut évidemment leur faire confiance, mais tout de même, restons vigilants. Mon souhait sera que l'historien ne doit pas être le chevalier blanc de l'anniversaire ou de la commémoration. L'histoire n'a pas à être le service public de la mémoire. Il faut qu'elle reprenne sa marche vers la recherche de la connaissance. Sinon, elle cessera d'être l'histoire. Le film historique documentaire doit être à la fois un vecteur narratif et un outil de recherche. Il est très semblable au livre d'histoire, avec son respect de la chronologie et ses notes explicatives en bas de page. Et il dispose d'un pouvoir essentiel, il tient le lecteur-spectateur captif et concentré. Pour moi, le cinéma est un magnifique instrument d'exploration du passé. N'est-il pas cette machine à remonter le temps qui nous a tous fait rêver ? Les images animées des archives sont un camouflet à la mort et à l'oubli. Le montage d'un film est un défi à la fuite inexorable du temps, un défi à la maîtrise de la chronologie. Aujourd'hui, le progrès technologique dans le domaine audiovisuel nous permet de décliner et de conjuguer tous les éléments du corpus historique. Nous sommes un peu comme les petits-enfants d'Hérodote qui s'amusent à tirer la barbe du vieux savant. Faire des films documentaires historiques est une noble entreprise. Alors laissons le match vérité contre mensonge dans les cuisines de l'histoire. Et pour paraphraser quelqu'un qui fut à la fois écrivain et cinéaste, disons que l'art, y compris le septième art, est un mensonge qui dit toujours la vérité. Mais je ne terminerai pas cette géniale boutade de Jean Cocteau en vous citant comme en prologue Paul Ricoeur. L'histoire est fidèle à son étymologie, c'est une recherche. Elle n'est pas d'abord une interrogation anxieuse sur notre décourageante historicité, sur notre manière de vivre, de glisser dans le temps, mais une riposte à cette condition historique, une riposte par le choix de l'histoire, par le choix d'une certaine connaissance. Cette intention d'objectivité n'est pas bornée à la critique documentaire. Elle anime même les grandes synthèses. Son rationalisme approché est de la même race que celui de la moderne science physique, et l'histoire n'a pas lieu d'avoir à son égard un complexe d'infériorité. Je vous remercie.
C'était le réalisateur Jean Cheyras, invité par l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 6 juin en séance publique. Le film documentaire historique « Vérités et mensonges ». Vous pouvez retrouver l'intégralité de la transcription de ce texte sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques. Il vous suffit de vous rendre sur le site dont voici l'adresse www.asmp.fr. Excellente journée, excellente soirée peut-être à l'écoute de nos programmes, la suite de votre programme sur Canal Académie dans un instant.